le journal C'est vous, Pierre Veil. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Theresa May à l'Elysée pour plaider un report du Brexit. La France pourrait dire oui, mais sous condition. Devant les députés, Édouard Philippe tire les conclusions du grand débat et annonce qu'Emmanuel Macron va prendre des décisions immédiates, puissantes et ouvrir de grands chantiers. L'opposition sort la carte inédite du référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Record de touristes en France en 2018, malgré les grèves et les manifestations de gilets jaunes. Un projet routier annulé par la justice dans un site emblématique de Dordogne, une querelle qui dure depuis 30 ans. À l'étranger, les Israéliens votent pour élire leur parlement. Premières estimations à 21h, l'avenir de Benjamin Netanyahou est en jeu. Nous irons dans une colonie juive de Cisjordanie où l'on vote traditionnellement à droite. Et puis l'inquiétude des clubs de football en France face à la réforme de la Ligue des Champions prévue pour 2024. Au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien ce soir, nous aussi, on parle du grand débat. C'est l'heure de la sortie en attendant les conclusions d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe, depuis hier, et vous le disiez à l'instant, envoie des signaux et des pistes. Mais est-ce pour préparer le terrain du président ou la preuve que l'exécutif a bien compris quels messages ont été envoyés? On voit ça ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter. Le Brexit, quand et comment? Il était prévu le 29 mars, puis repoussé au 12 avril, donc dans 3 jours. Toujours pas de réponse précise. Theresa May s'est rendue aujourd'hui à Berlin et ensuite à Paris à la veille d'un sommet européen crucial où elle plaidera pour un nouveau report du Brexit. Son objectif, c'est éviter une sortie brutale de l'Union européenne. Elle voudrait un ajournement du Brexit jusqu'au 30 juin. Theresa May est en ce moment à l'Elysée pour plaider sa cause auprès d'Emmanuel Macron. Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes à l'Elysée, la France semble dire on peut reporter le Brexit, mais sous condition.
Oui, tout à fait. Emmanuel Macron a certes accueilli Theresa May en lui faisant la bise tout à l'heure sur le perron de l'Elysée. Ambiance décontractée, mais fermeté affichée. Le président français accepte d'envisager un nouveau report, mais assorti de nombreuses conditions, explique son entourage. Pas question de laisser les Britanniques perturber le fonctionnement de l'Union. S'ils y gardent un pied, ils doivent s'engager à ne pas bloquer l'adoption du budget de l'UE, par exemple, ni intervenir dans la désignation du futur président de la Commission. Pas question non plus que le nouveau report dure un an, affirme l'Élysée, ce serait trop long. Un report est possible jusqu'à début 2020, affirme de son côté Angela Merkel. Comme si les deux chefs d'État s'étaient concertés, c'est sans doute le cas. Good cop allemand et bad cop français étant finalement d'accord.
Louise Baudet, hypothèse privilégiée ce soir quand même, on va vers un nouveau report du Brexit.
Oui, difficile pour l'un des 27 d'opposer son veto demain à un nouveau report. Ce serait se diriger tout droit vers un no deal dans 3 jours et cela, personne ne souhaite en porter la responsabilité au point peut-être de mettre de côté ce qui était jusqu'ici réclamé à Theresa May, ce plan B qu'elle ne parvient pas à présenter. Les discussions qu'elle a entamées avec son opposition travailliste, c'est un élément nouveau, a dit ce matin le négociateur en chef des Européens, Michel Barnier. Un élément qui peut-être, sait-on jamais, suffira à justifier ce report qu'elle est venue chercher.
Louise Baudet à l'Elysée avec les moyens techniques de Clémence Bonfils. Hier, Édouard Philippe faisait le bilan des contributions au grand débat national, promettant de répondre à l'exaspération fiscale des Français en baissant plus vite les impôts. Eh bien aujourd'hui, il a présenté devant l'Assemblée nationale le sens politique qu'il donne à cette consultation, un exercice délicat devant des députés qui sont dans l'attente de propositions concrètes. Au Palais Bourbon, donc, un long après-midi de débats dans l'hémicycle, une déclaration du chef du gouvernement suivie d'interventions des présidents de groupe, mais il n'y aura pas de vote. À l'Assemblée nationale, on retrouve Karine Bécard. Bonsoir Karine.
Bonsoir.
Karine, Édouard Philippe constate que le grand débat a révélé, je le cite, un mur de défiance entre les Français et leurs représentants et il annonce qu'Emmanuel Macron va prendre des décisions puissantes.
Oui, le Premier ministre s'est peut-être beaucoup avancé. En tout cas, rien pour l'instant n'a été officiellement annoncé. Au contraire, tout le discours d'Édouard Philippe cet après-midi, c'était pour rappeler que toutes les réformes que son gouvernement et sa majorité ont d'ores et déjà engagées sont les bonnes réformes et qu'il va même falloir les accélérer.
Tout cela rejoint les engagements de campagne du président de la République. Tout cela rejoint la feuille de route de ce gouvernement. Tout cela rejoint les chantiers qui se déploient depuis presque 2 ans. Ce que nous disent les Français, c'est qu'ils ne voient pas assez les résultats, que les choses ne bougent pas assez vite. C'est une puissante incitation à redoubler d'efforts.
Donc sur la taxe carbone, par exemple, qui est au cœur de la crise des Gilets jaunes, qui dure depuis maintenant 20 semaines, le Premier ministre reconnaît s'être trompé, certes sur la méthode, mais certainement pas sur l'ambition qu'il faut absolument garder. Non, la seule nouveauté qui est finalement affichée, c'est la volonté désormais de travailler avec tous les corps intermédiaires. Édouard Philippe, sur le sujet, a été extrêmement clair.
Le Président de la République fixera le cap et annoncera l'ouverture de grands chantiers. Avec les élus locaux, quand il s'agit de l'avenir de nos territoires, avec les organisations syndicales et patronales quand il s'agit de faire vivre la démocratie sociale, avec les associations dont le grand débat a rappelé le rôle essentiel dans notre vie citoyenne.
Au final, peu de surprises dans ce discours d'Édouard Philippe, qui a été pas mal bousculé, invectivé cet après-midi dans l'hémicycle. Il a promis, vous l'avez dit, des mesures puissantes, mais sans détailler de calendrier, sans dire quand s'exprimera maintenant le président.
Karine Bécart au Palais Bourbon avec Nicolas Mathias.
C'est la disposition phare du projet de loi Pacte sur les entreprises en cours d'examen au Parlement.
Oui Fabienne, la privatisation d'Aéroports de Paris, elle doit être adoptée définitivement à l'Assemblée jeudi. Eh bien des parlementaires, notamment socialistes, communistes et de droite, annoncent avoir recueilli les signatures nécessaires à un possible référendum d'initiative partagée contre cette privatisation. Alors que 185 signatures sont requises pour lancer cette procédure, jusqu'ici inédite, les parlementaires ont recueilli 218 paraphes. Cette proposition parlementaire doit désormais être validée par le Conseil constitutionnel et signée par 10% du corps électoral, soit 4,5 millions de Français, pour organiser ce référendum. Voici un des signataires, Patrick Kanner, sénateur socialiste du Nord, avec Maxence Lambrecq.
Des sénateurs socialistes, communistes, centristes, des sénateurs radicaux, des sénateurs de toute sensibilité. La même chose du côté de l'Assemblée nationale, avec notamment en plus France Insoumise. Cela montre que, encore une fois, on ne peut pas brader ADP. ADP est une poule aux œufs d'or pour l'État. Pourquoi donc sacrifier cette poule aux œufs d'or? C'est un peu le sens de notre démarche. Et puis aussi, c'est montrer au gouvernement que, puisqu'on parle de grand débat, eh bien, il a l'occasion de mettre en œuvre réellement un vrai référendum auprès des Français au travers de cette démarche que nous avons initiée.
Et sur cette initiative de lancer un référendum d'initiative partagée, la réponse très critique d'Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris.
Qu'à 48 heures du vote définitif du texte du pacte au sein duquel sont les privatisations, qu'à 48 heures d'un vote définitif, alors même que ça fait 18 mois que ces sujets sont sur la table, l'ensemble des oppositions fasse une conférence de presse, je pense que c'est un beau signal, c'est une belle manœuvre de politique politicienne. Il faut voir comment le Conseil constitutionnel va évoluer, ce qu'il va en dire, et dans quelle mesure ensuite peut-être une pétition avec des signatures serait lancée. Il aurait été intéressant que les oppositions soient aussi en convergence pour proposer, et pas uniquement pour s'opposer. Je trouve ça un peu dommage en réalité.
Voilà, Olivia Grégoire avec Maxence Lambrecq. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a provoqué l'indignation, vous vous en souvenez, de nombreuses ONG la semaine dernière. Il déclarait que les ONG chargées de secourir les migrants en Méditerranée ont pu se faire, je cite, « complices des passeurs ». Il a dénoncé une réelle collusion avec les passeurs dans certains cas. Eh bien aujourd'hui, l'association SOS Méditerranée lui demande des comptes. Écoutez Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe de SOS Méditerranée France, interrogée par Philippe Rondet.
Nous demandons à Monsieur Castaner d'apporter des précisions et des preuves sur les accusations qu'il a données il y a quelques jours. C'est effectivement un discours certainement politique, puisqu'on y retrouve beaucoup de ce qu'on a déjà entendu de la part de Monsieur Salvini, et c'est plutôt ce qui vient d'Italie, mais c'est aussi un discours de responsabilité, les responsabilités de quelqu'un qui est au sein du gouvernement et qui a la responsabilité de donner des informations vérifiées. Je n'accuse pas M. Castaner de mentir, mais si lui affirme avoir des éléments, eh bien qu'il les donne et qu'il précise ses propos, puisqu'à ce jour, nous n'avons eu aucune information de ce type et que ces allégations qui ont été formulées depuis plusieurs mois n'ont jamais abouti. Aucune preuve n'a été apportée sur de telles allégations. Ça nous énerve beaucoup parce que pendant ce temps, on détourne le regard de là où il doit être porté, c'est-à-dire en Méditerranée centrale. Le véritable scandale, il est là.
Sur France Inter, il est 19h10. Les Israéliens votent aujourd'hui pour élire leur Parlement.
Oui, des législatives qui décideront si l'indétrônable Benjamin Netanyahou poursuit son long règne ou si l'heure du changement est venue avec son rival du centre droit, l'ancien chef d'état-major de l'armée, Benny Gantz. Les bureaux de vote fermeront à 21h, heure de Paris. Les premiers sondages sortis des urnes seront alors publiés. On prévoit un score très serré en Israël. C'est le scrutin proportionnel. Aucune liste ne peut avoir la majorité absolue de 61 sièges sur 120. Netanyahou ou Gantz peuvent espérer chacun peut-être une trentaine de sièges. Ils font donc ensuite constituer des coalitions lors de longues et laborieuses négociations. Il y a un lieu où la droite et Benjamin Netanyahou ont une bonne cote de popularité, dans les colonies juives de Cisjordanie. Il y a quelques jours, il se disait, Netanyahou, prêt à les annexer à Israël. Journée de vote dans une colonie, Ephrat, au sud de la Cisjordanie, près de Bethléem. Reportage Étienne Monin.
Pour Shraga Blum, cette élection pourrait ressembler à un jeu de chaises musicales. Ce Suisse vit depuis 13 ans dans la colonie d'Ephrat. Il vote à droite et cette année, dit-il, le choix est délicat.
Il n'a jamais été aussi compliqué pour une raison très simple. C'est qu'il y a une partialisation des partis. Surtout à droite.
À la droite du Likoud, quatre partis nationalistes ou identitaires pourraient siéger. L'offre s'est élargie et le Premier ministre a compliqué l'équation.
Il y a deux thèses qui s'affrontent. La thèse tenue par le Premier ministre qui dit qu'il faut absolument que le Likoud soit le plus grand parti pour que le président lui donne la préséance pour la formation du gouvernement. Et puis il y a la thèse inverse qui dit que si tout le monde vote pour le Likoud, enfin les gens de droite, à ce moment-là, il y a des petits partis de droite qui risquent de ne pas franchir le seuil pour former une coalition.
Dans la dernière ligne droite, pour tenter d'emporter cet électorat, le Premier ministre a promis l'annexion des colonies, mais la ficelle est un peu grosse pour plonger, dit Lévy, installé en Cisjordanie depuis 25 ans.
Non, je vois ça comme une décision politicienne. Ses conseillers ont sans doute estimé que ça l'aiderait dans les urnes, mais personne n'en tiendra compte, sauf peut-être les Européens et les Américains démocrates.
Ephrat est une colonie majoritairement religieuse, modérée. Aux dernières élections, elle avait voté massivement pour un parti national religieux, dont un bord s'est encore radicalisé. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Au Mozambique, trois semaines après le passage du cyclone Idai qui a fait 600 morts, le pays peine à se relever. Les 2 millions de sinistrés font face à une nouvelle difficulté de taille, une épidémie de choléra qui se propage à cause des conditions sanitaires désormais précaires. Déjà 3100 cas recensés, dont 5 morts. Sur cette situation au Mozambique, le témoignage d'Alfredo Thomas, qui est responsable de la Croix-Rouge au Mozambique, au micro de Solène Lehen.
We have a combination of the cyclone and the flood.
Le cyclone a provoqué des inondations qui se sont répandues sur la moitié du territoire et du Mozambique. Résultat, les conditions sanitaires sont mauvaises depuis des semaines. Les habitants n'ont plus d'eau potable. C'est pour cela que le nombre des victimes du choléra est aussi important. On pense même qu'au-delà de ces chiffres officiels, il y a probablement bien plus de malades. On a besoin de provisions d'eau potable, de kits d'hygiène, de savon. Sans savon, l'épidémie du choléra risque de continuer à se répandre.
En Algérie, une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, le président du Conseil de la Nation, l'équivalent de notre Sénat, Abdelkader Ben Salah, nommé président par intérim pour 90 jours lors d'une réunion du Parlement algérien. Pendant cette période, une élection présidentielle doit être organisée, décision conforme à ce que prévoit la Constitution algérienne, mais qui va à l'encontre de ce que réclament les Algériens. Ils continuent massivement à manifester pour demander le départ de l'ensemble du système Bouteflika. La police a tiré des grenades lacrymogènes et fait usage de canons en eau pour disperser des manifestants hostiles au régime dans le centre d'Alger cet après-midi. Retour en France avec le tourisme chez nous et plus particulièrement la fréquentation des hôtels. L'INSEE vient de publier ses statistiques pour 2018. La fréquentation dans les hôtels en hausse de 2,2%. Fréquentation record. Philippe Lefebvre, alors peut-on en déduire qu'il n'y a pas eu d'effet gilet jaune, donc moins de visiteurs à cause des manifestations et des violences ?
Eh bien malheureusement, il y a tout de même eu un effet gilet jaune, mais limité au mois de décembre à Paris, période où généralement les hôteliers de la capitale font le plein. Une baisse de 5,3% de la fréquentation des hôtels par rapport à 2017, selon les chiffres de l'INSEE qui ne tiennent compte, bien évidemment, que des deux premiers mois du mouvement. Reste que les hôteliers observent la situation avec une certaine inquiétude, notamment pour les réservations pour l'été prochain. C'est le cas de Quique Sarasola, le PDG du groupe espagnol Hotel Roommate. Il inaugure aujourd'hui un hôtel à Paris, près de la très chic avenue Foch. Il compte ouvrir deux autres établissements dans un futur proche dans la capitale et il prévient.
Il faut aussi penser dans l'économie de la ville. Non, et il faut qu'ils regardent les numéros de Barcelone, qui est à mon pays, à Barcelone. Ils ont commencé à faire ça et tous les chiffres des boulots, de toutes les choses à Barcelone sont descendus complètement. Mais c'est dur après monter.
Enfin, c'est rassurant. Malgré les images des manifestations violentes diffusées dans le monde entier, les touristes étrangers n'ont pas boudé la France. La clientèle américaine a progressé de 16% en un an et la clientèle japonaise de 18%. Et pour ce qui est de nos voisins européens, ce sont les Britanniques qui ont été les plus nombreux à visiter l'Hexagone, avec une fréquentation des hôtels en hausse d'un peu moins de 6%.
Et un site emblématique en Dordogne face à un projet routier.
Et une polémique qui dure depuis 30 ans. Nouvel épisode aujourd'hui. Le tribunal administratif de Bordeaux annule le chantier du contournement routier de Bénac autour d'un village médiéval touristique de Dordogne dans une vallée parsemée de châteaux. Projet contesté par les défenseurs du patrimoine et de l'environnement. Le département de la Dordogne, lui, le défend ce projet au nom de la sécurité routière. Le tribunal estime que le projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public présentant un caractère majeur, en cause une déviation de 3 km 200 autour du village de Bénac où les habitants disent leur lassitude face à cette querelle juridique. Sur place, reportage Antoine Ballandra.
Devant sa boutique de souvenirs située entre la falaise, la route et la rivière, Rémi attend les premiers touristes. Ce commerçant arbore un grand sourire. Il faut dire qu'il milite contre le contournement, histoire de conserver le flux de consommateurs, dit-il.
Le commerce est sain, les voitures qu'à Delpas, c'est s'arrêtent. Combien de fois, en tant que commerçant, nous on voit les gens qui s'arrêtent, vite, ils s'arrêtent prendre une boisson, ils s'arrêtent manger un morceau vite fait.
Mais le sentiment qui semble dominer à Bénac chez les habitants, c'est l'exaspération, qu'ils soient pour ou contre. Les Bénacois croisés devant la boucherie du village en ont assez, disent-ils, des péripéties autour du contournement.
J'étais contre, mais au vu de tout ce qui s'est fait, là, il y en a la moitié presque de fait. Et moi, je dis maintenant, on va tirer le vin, il faut le boire.
Maintenant qu'on en a fait la moitié,
le pognon qui s'est cramé.
Qu'on a payé parce que les habitants paient, eh bien, il faut la finir, hein. Il n'y a pas d'autre choix. Hein.
Il faut terminer la déviation, c'est aussi l'avis de Pascal, un artisan de Bénac qui passe plusieurs fois par jour dans le village.
Il fallait le dévier. Plus ça va, plus les camions prennent de la place. On voit un flux augmenté de camions routiers qu'on n'avait pas avant.
De nombreux habitants espéraient en fait que le chantier se termine pour passer enfin à autre chose. Mais après 30 ans de procédures en tout genre, la bataille est encore loin d'être terminée.
Et le président du département de Dordogne affirme que sa volonté de poursuivre le projet est intacte. Nous prendrons, dit-il, toutes les mesures adaptées pour cela. Nous ferons soit appel, soit nous lancerons une nouvelle procédure de zéro. Le département du Nord est placé en alerte sécheresse. Décision de la préfecture. C'est la première fois qu'une telle mesure est prise si tôt dans la saison, avec plusieurs mesures de restriction d'utilisation de l'eau pour les particuliers, les professionnels et les collectivités. C'est valable jusqu'au 30 juin. Interdit notamment l'arrosage des pelouses et des jardins de 9h à 19h, le remplissage des étangs ou des piscines privées ou encore le lavage des voitures en dehors des centres spécialisés qui recyclent l'eau. À Lille, Emma Sarango de France Bleu Nord.
Il n'y a plus de retour en arrière possible, plus d'amélioration à espérer. L'année 2019 sera sèche, quoi qu'il arrive, explique Lucie Lavaugier, adjointe au service eau de la direction départementale des territoires et de la mer.
Il risque encore de pleuvoir dans les jours qui arrivent, mais ce sera plus efficace puisqu'aujourd'hui la végétation est sortie. Elle va capter une grande partie de cette eau et donc cette eau ne va plus s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques.
Une fatalité notamment dans la métropole lilloise où 60 millions de mètres cubes d'eau potable doivent être distribués chaque année. Alors ces mesures étaient urgentes, reconnaît Alain Détournay, vice-président de la MEL chargé de la politique de l'eau.
Au lieu de laver sa voiture tous les dimanches, on ne la lave plus. Au lieu de prendre des bains, on prend les douches, etc. Donc il faut sensibiliser les utilisateurs à ce problème d'économiser l'eau.
Oui, mais ce n'est pas encore suffisant, regrette Alain Vaillant. Le président de l'association Nord Nature Environnement estime que les autorités françaises doivent durcir leur réglementation comme chez nos voisins européens.
En Belgique, pour toute nouvelle construction, obligation
de récupérer l'eau de pluie et de la stocker pour pouvoir l'utiliser. Ça permet d'économiser l'eau potable. On n'est pas plus sots que les Belges.
Le préfet du Nord promet une nouvelle réunion en juin pour décider d'un éventuel renforcement du niveau d'alerte.
Emma Sarango de France Bleu Nord. À l'instant, cette décision du tribunal administratif de Paris qui rejette les demandes de rapatriement des ressortissantes françaises et de leurs enfants mineurs retenus dans un camp de Syrie.
Allez, le sport ce soir, Pierre, c'est du football.
La Ligue des Champions avec les deux premiers quarts de finale, Tottenham-Manchester City et Liverpool-Porto, coup d'envoi à 21h. Mais en coulisses, on discute d'une réforme de la Ligue des Champions prévue pour 2024. Elle inquiète les dirigeants du football français. Avec cette réforme, Cédric Guillou, la Ligue 1 perdrait considérablement de son intérêt.
Oui, et plusieurs présidents de clubs de Ligue 1 se réunissent d'ailleurs ce soir pour discuter de ce projet controversé, projet soutenu notamment par les plus grands clubs européens comme le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, qui serait de disputer la phase de poule sous la forme de 4 groupes de 8 équipes au lieu des 8 groupes de 4 équipes. Ça ressemblerait à une ligue fermée puisque les 5 premiers de chaque poule seraient directement qualifiés pour l'édition suivante, peu importe leur classement en fin de saison. Les championnats nationaux perdraient du coup considérablement de leur intérêt. Et ça ne plaît pas du tout à Bernard Caillazot, co-président de la Saint-Etienne et président du syndicat des clubs de Ligue 1.
Ce qui est très grave, c'est que celui qui gagne en France, le championnat ou ceux qui sont parmi les premiers, ne jouent pas les compétitions européennes. C'est d'autres qui les jouent comme une sorte de rente automatique. C'est un système de riches qui profite aux plus riches. 80% des clubs dans les différents pays n'accepteront pas cette formule.
L'UEFA et l'Association européenne des clubs, présidée par le patron de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, se sont rencontrés le 19 mars dernier pour parler de cette nouvelle formule. Ils vont de nouveau se voir le 8 mai prochain.
Cédric Guillou, c'est la fin de ce journal. Et voici Fabienne Synthès, mais la météo d'abord.
Mais hein. Absolument, voilà. Chaque chose en son temps,
oui, absolument.
Pierre, absolument. On ne change pas une équipe qui gagne, on fait ça doucement. On reste ensemble pour le téléphone sonne, c'est vrai. Et ce sera juste après Sébastien Lias.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Et Sébastien Léas, je n'arrive décidément pas à m'y faire, du coup j'ai perdu votre feuille. Ah, de la pluie vers le nord, des averses au sud, des éclaircies au milieu, voilà pour demain.
Exactement, 3 tranches. Demain matin, hormis des plaques de grisaille, on trouvera de belles éclaircies du bassin d'Arcachon au sud Bretagne, à l'Île-de-France et au nord Auvergne, jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté et au nord des Alpes. Sur le reste du pays, la matinée sera quand même plutôt grise, avec un ciel souvent chargé, quelques pluies faibles au nord de la Seine, des averses près des Pyrénées, même des orages sur le sud-est. L'après-midi, le risque d'orage va concerner tout le tiers sud du pays, avec même de la grêle en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La perturbation faiblement pluvieuse du nord va, elle, s'étendre de la Bretagne et la Normandie au bord de Loire, au Jura et au Grand Est. Le Nord-Pas-de-Calais va enfin retrouver de belles éclaircies, notamment le Boulonnais. Partout ailleurs, on gardera des éclaircies. Quelques averses ne sont pas exclues, avec même quelques orages du côté du nord des Alpes. Le soleil se montrera plus généreux sur les plages de l'Atlantique grâce aux brises de mer.
Et sinon, baisse des températures, en tout cas dans le nord.
Oui, l'arrivée de la pluie va faire perdre quelques degrés, surtout sur le nord-ouest. Il fera à peine 10 degrés à Caen et Paimpol, 13 degrés pour Mulhouse et Valenciennes, 15 degrés à Paris, Besançon et au Mans. On ira jusqu'à 16 degrés à Poitiers, Clermont-Ferrand, Bourges et Ajaccio, 17 degrés à Toulouse, Bordeaux et Toulon, 18 degrés pour Grenoble et Aix-en-Provence, et le maximum sera pour Nîmes avec 20 degrés.
Sébastien Léas de Météo France.